France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sandrine Saroche, une humoriste qui adore pousser la chansonnette et détourner les refrains célèbres pour parler d'actualité. Après plusieurs spectacles, sa chronique sur Paris Première est devenue un rendez-vous très prisé. Et comme en plus Sandrine Saroche ne dédaigne pas l'opérette ni les autres formes d'humour musical, j'avais toutes les bonnes raisons de l'inviter à ce micro. En fin d'émission, je reviendrai sur le grand compositeur viennois Léo Fall. Mais d'abord, puisque c'est la saison, je voudrais vous faire écouter une histoire de rose.
Connaissez-vous la rose lune? Connaissez-vous la rose temps? L'autre ressemble autant à lune que dans le miroir de l'étang. L'une à l'autre se reflétant. Connaissez-vous la rose amère, faite de sel et de refus, celle qui fleurit sur la mer, entre le flux et le reflux, comme l'arc après qu'il a plu. La rose songe, mais la rose âme, par bottes au marché vendues. La rose jeu, la rose gamme, celle des amours défendus. Et la rose des pas perdus. Connaissez-vous la rose crainte? Connaissez-vous la rose nuit? Toutes les deux qui semblent peintes, comme à la lèvre est peint le bruit, comme à l'arbre est pendu le fruit. Toutes les roses que je chante, toutes les roses de mon choix, toutes ces roses que j'invente, je les vante en vain de ma voix. Devant la rose que je
Ah, quelle est jolie vraiment cette chanson. Je ne sais pas si vous avez reconnu la voix de Jean-Claude Pascal. Et ce que vous ne savez peut-être pas non plus, c'est que les paroles sont rien moins que de Louis Aragon, avec une belle musique de Philippe Gérard. Tout ça pour vous annoncer la sortie chez Frémaux et Associés d'un superbe coffret de 3 CD intitulé Aragon et ses interprètes 1953-1962. Alors on retrouve dans ce coffret les grandes séries les plus importantes, celles de Catherine Sauvage et celles de Léo Ferré en particulier. Et puis aussi, bien sûr, Georges Brassens dans Il n'y a pas d'amour heureux, mais également des quantités de versions plus rares, moins connues, des chansons d'Aragon, que ce soit par Jean-Claude Pascal, par Caroline Claire, par Denise Benoît et encore beaucoup d'autres. Voilà, Aragon et ses interprètes, ça vient de sortir en 3 CD chez Frémaux et Associés.
Thank you.
Tiens, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait entendre un petit air d'accordéon. Là, c'était le grand Jo Privat dans une de ses plus belles valses mystérieuses enregistrées en 1945.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis, je vous le disais, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin une humoriste qui adore nous faire rire en détournant des chansons. Elle le fait avec un talent fou dans l'émission Zemmour et Nolo sur Paris Première et aussi sur scène quand les théâtres sont ouverts. Bienvenue donc à Sandrine Saroche.
C'était un jour de printemps, on attendait qu'on nous vaccine. Et puis prends ça dans les dents et vas-y que je te reconfine. Ça faisait déjà un an que notre vie était foutue quand le chef du gouvernement nous a dit d'un ton ingénu: pour acheter ton journal, faut une attestation. Pour te payer un casse-dalle, une autre attestation. Les braves gens étaient perdus. C'est quoi la bonne version? Déjà qu'ils en pouvaient plus, qu'on les prenne pour des cons. C'est ça qui est triste. C'était le reconfinement. La France en deux était coupée. Je pouvais plus voir ma maman car j'étais en zone occupée. On en a perdu du temps à imprimer tous ces papiers. Je crois qu'on a tous été perdants, à part peut-être les papetiers. Pour aller à l'hôpital, une attestation. Pour sortir ton petit animal, une autre attestation. Avouez que c'est pas banal, que la bande à Macron se mélange ainsi les pédales et s'en mêle les crayons. C'est ça qui est triste. Pour ton devoir conjugal, faut une attestation. Pour aller au carnaval, ah, là y a interdiction. Déjà qu'on se sentait mal, alors là c'est le pompon. Pour la gestion vaccinale, en alvar et en breton, c'est ça qui est triste.
Bonjour Sandrine Saroche.
Bonjour Benoît.
Vous aimez Bourville?
Ah bah oui, comment oui. Ne pas aimer ouais. Bourville, comment ne pas aimer à la fois l'humour, la tendresse, toute l'humanité en fait qui ouais. se dégage de ce personnage, comment ouais. ne pas aimer Bourville. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit je n'aime pas Bourville.
Oui, c'est vrai, vous avez ah. raison.
Il fait l'unanimité, ouais.
En tout cas, j'adore ce détournement des crayons. Alors faut rappeler, c'est dans l'émission donc Zemmour et Nolo où chaque semaine vous faites une chronique très souvent chantée, on y reviendra, et vous utilisez la chanson pour parler de l'actualité. Mais alors faut que ça vienne à chaque fois, par exemple, voilà, l'attestation, les crayons, vous vous rappelez, ça vous a pris du temps, des efforts?
Ça prend du temps, effectivement, oui, parfois. Alors moi, je n'écris pas toute seule, hein, on est trois à écrire cette chronique, donc tous les lundis et les mardis, en fait, ça prend de plus en plus de temps, parce que l'actualité est de plus en plus compliquée, quand même. Et c'est vrai que trouver la chanson, c'est ce qui nous prend énormément de temps.
Et voilà. Et puis l'idée qui va résonner avec
le
refrain.
C'est ça, parce que c'est pas seulement trouver une chanson, c'est effectivement c'est trouver les mots qui se mettent sur la chanson. Enfin, la chanson détournée, c'est un art particulier.
Voilà.
C'est pas comme écrire une chanson.
Et puis après, vous répétez.
Après, on répète. Après, une fois qu'on a trouvé la chanson, il faut l'écrire. Et ça prend aussi du temps. Et puis, une fois qu'on a écrit la chanson, il faut écrire le texte qui va après la chanson. Voilà. Donc, ça prend du temps, tout ça.
Mais ça crée toujours une atmosphère, je dois dire, irrésistible sur ce plateau. À un moment, on était très heureux, on rit beaucoup. Et j'ai l'impression, moi, je vous ai découvert comme ça, dans ces chroniques de l'émission, donc, de Paris Première, Zemmour et Nolo, qui était, j'ai l'impression, au début, un peu plus parlé. Et j'ai l'impression que la chanson, elle prend de plus en plus de place dans votre prestation.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que je serais arrivée tout de suite en disant je veux chanter, il m'aurait peut-être pas donné la possibilité. Oui. Et d'ailleurs, je me suis laissé dire qu'il y a eu une réunion à la fin de la première saison où il se demandait comment me dire d'arrêter de chanter. Voilà. Bon, finalement, ils ont bien fait de ne pas me dire d'arrêter de chanter, parce que c'est vrai que c'est une marque maintenant, c'est une marque de fabrique.
Ah oui, on voit les invités politiques avec les yeux brillants qui vous
écoutent. Et on peut dire tellement de choses avec une chanson.
Avec une chanson. Alors c'est quoi finalement votre métier, Sandrine? Vous êtes humoriste, chansonnière, chanteuse.
C'est un petit peu comme
actrice.
Si je m'étais inventé un métier, choisir se renoncer. Eh bien, je n'ai pas renoncé. Enfin, voilà, je ne choisis pas. J'aime tout ça. J'aime chanter, j'aime jouer, j'aime faire rire, j'aime jouer la comédie, j'aime danser, j'aime être sur scène. Alors je ne choisis rien et je fais tout ça quand j'en ai envie. Enfin, finalement.
Alors la scène, évidemment, c'est pas la meilleure période, mais heureusement, finalement, malgré tout, la pandémie vous souffle aussi des idées comme celles qu'on vient d'entendre.
Bah oui, c'est vrai. Oui, moi, j'ai cette chance d'avoir continué à exercer mon art par rapport à d'autres collègues qui ne peuvent pas, qui ont dû arrêter tout à fait de façon nette. Moi, c'est vrai que j'ai arrêté la scène pendant un an, mais que je suis toujours présente toutes les semaines avec cette chronique, donc j'ai cette chance.
Voilà. Et nous, on est heureux de vous entendre et on va en profiter pour remonter un peu le temps avec vous. En commençant par votre enfance, où je crois vous entendiez notamment, comme beaucoup d'autres, cette chanson.
Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. En 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. Quand on m'a parachuté sur un village français, la guerre, Jeannette, je te l'ai raconté, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles ton et les cerisiers blancs, mais des Normandies, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux, mais des Normandies, les ceux, mais des Normandies, les peu, mais des Normandies, un petit village plein d'amis, et puis les filles au jour rouge qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de la part. Je suis américaine et je suis née à Philadelphie. En 1944, tu es partie loin de ma vie. J'ai mis dans ton blouson un peu de terre de notre pays. J'ai tremblé en écoutant la radio.
Mais Made in Normandie, évidemment, on a reconnu Stone et Chardin, et puis alors des arrangements tout à fait d'époque, hein, de Bernard Estardi, c'était en 1973. Et vous, Sandrine Saroche, vous vous rappelez avoir entendu cette chanson sur le poste de radio familial?
Ah bah oui, bien sûr, c'était à la radio, j'avais 4 ans, donc... Et alors, c'est une spécificité, c'est que ma mère était enceinte, en fait, quand j'entendais cette chanson, donc c'est toute une époque, effectivement, j'adore cette chanson.
Voilà. Alors, il faut dire, c'était pas en Normandie que vous l'écoutiez, hein, c'était même un peu le contraire de la Normandie.
Absolument, hein. Mais c'est pour ça, c'était tellement l'opposé, et donc la Normandie était, comme la Bretagne, c'était un fantasme pour moi, je ne savais pas du tout à quoi ça pouvait ressembler en vrai.
Quand on a le malheur de naître au soleil,
et
à Toulon,
quand
dans
on a le
sud...
malheur de ne pas être né comme vous en Normandie, eh bien effectivement, on rêve de Normandie lorsqu'on est dans le sud, une petite fille du soleil, on rêve de Normandie, voilà. Et quand j'ai découvert la Normandie, d'ailleurs, je ne peux pas aller en Normandie sans penser à cette chanson.
Alors, à Toulon, votre mère tenait un salon de coiffure.
Oui. Hein,
et il y avait de la musique aussi, peut-être, dans le salon, non?
Pas au tout début, hein, puisque ça ne se faisait pas. Finalement, c'était une époque heureuse où il n'y avait pas de musique partout.
Ah oui, c'est bien, vous avez raison.
Oui, c'est vrai. J'ai connu cette époque.
Votre père aussi travaillait dans la banque. Et alors, très tôt, vous êtes révélé, notamment au comité d'entreprise, je crois, comme une animatrice, une...
Improvisée, tout à fait, ouais.
Vous adoriez improviser, vous montrer, chanter, jouer, etc. C'était votre nature.
Ah hein. Ouais, vraiment. Il y avait beaucoup de sorties en bus. Et donc, dans le bus, qui dit bus, dit micro. Et je prenais, on me tendait le micro et on me priait pas longtemps. Et je pense que je pouvais chanter 2 heures non-stop, comme ça. Voilà. J'ai dû les saouler, mais vraiment, c'est dû être terrible.
Non, mais ça prouve en tout cas que c'est bien enraciné chez
oui,
vous, ce goût de vous produire déjà en public.
C'est vrai.
Et puis de chanter en particulier. Mais alors, il y a une autre source d'inspiration, si j'ai bien compris, qui a été importante pour vous. C'est la société toulonnaise. Moi, ça me fascine beaucoup.
Ah oui.
Parce que c'est une ville un peu spécial, Toulon.
C'est vrai,
hein,
c'est vrai. C'est à la fois une ville très populaire.
Ouais.
Moi, je suis vraiment, j'ai grandi dans un quartier très très populaire de Toulon. Et puis il y a aussi ce mélange avec cette bourgeoisie, avec les femmes d'officiers de marin.
Militaire,
et militaire,
une bourgeoisie en fait, militaire.
Bourgeoisie
qui est
militaire.
Tout à fait un monde à part. Hein.
Tout à fait. C'est très bourgeois. C'est ce mélange-là, Toulon. C'est ce mélange. Voilà.
Voilà. Et alors, vous trouviez les filles des officiers de marine au concert, par exemple?
Ouais, au concert. D'abord au conservatoire. Moi, j'étais au conservatoire de Toulon. Et on était obligés d'aller au concert. Une fois par mois, il y avait des concerts. On était tenus. On n'était pas obligés, mais on était quand même tenus. C'était quand même mieux d'y aller. Et au départ, ce qui était une contrainte est devenu un plaisir, vraiment. Ouais. Et c'est vrai que j'avais, à un moment donné, dans ma classe, j'avais la fille de l'amiral. Et donc, j'ai eu la chance d'aller, de partager la loge de l'amiral et qui quand même dormait copieusement pendant le concert, hein, il ronflait bien fort. Voilà.
En écoutant la Damoiselle élue ou le...
La Damoiselle élue, oui, tout à fait.
De Debussy.
De Debussy, oui.
Alors, écoutez, je ne sais pas si vous aimez l'opérette marseillaise ou si vous la connaissez un petit peu, mais j'ai trouvé justement une chanson sur Toulon. Il m'a semblé que c'était de rigueur. C'est extrait de Trois de la Marine et c'est chanté par Darcellis.
Les permissions de 24 heures sont accordées aux hommes suivants. Banas.
Présent.
Lestouret.
Présent.
Ibonec.
Présent.
Solar.
Présent.
Rompédéran.
À Toulon, tous les matelots sont bien les plus beaux, avec en bénéfice sur l'oreille. À Toulon, les petits vols bleus sont plus amoureux, au fait de toilettes de Mireille. Ils peuvent déployer ailleurs leur fleur de braise.
Que l'azur a dit, avec sur la tête un béret en coquette. Les marins sont beaux dans tous les ports, ils font mille conquêtes, mais ils paraissent plus beaux encore chez eux dans leur décor. Ce sont des as de Tamaris au fond du las. À Toulon, tous les matelots sont bien les plus beaux, avec leur béret bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux auprès de Toinette ou de Mireille. Ils peuvent effrayer ailleurs leur cœur de braise. Ils reviennent toujours près de leur Toulonnaise. Apparemment, les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon. et qu'ils sont là. Dans Toulon, c'est le branle-bas. Du port aux Sablettes, les filles sont en fête. Ils débarquent joyeux ces grands fous, en chantant à tue-tête. Qu'on attrape un bon rhume, on s'en fout, pourvu qu'on aime un coup. C'est le retour, vive le vin, vive l'amour. À Toulon, tous les matelots sont bien les plus beaux, avec leur béret bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux, auprès de Toinette ou de Mireille. Ils peuvent effeuiller ailleurs leur cœur de braise, ils reviennent toujours près de leur Toulonnaise. Ah, vraiment, les joyeux marins ont bien plus d'entrain et plus de pompons quand ils sont à Toulon.
À Toulon, tous les matelots sont bien les plus beaux, avec leur béret bien sur l'oreille. À Toulon, les petits cols bleus sont plus amoureux auprès de Toinette ou de Mireille. Ils peuvent effeuiller ailleurs leur cœur de braise, ils reviennent toujours près de leur Toulonnaise.
D'Arcelis dans Trois de la Marine, musique de Vincent Scotto, une opérette apparemment que tout le monde connaît à Toulon.
Bah, moi je la connaissais en tout cas, effectivement, oui, c'est, on est bercé avec ça. Enfin, moi j'ai été bercé avec ça depuis ma naissance. Et je suis en train de me demander justement si mon fils connaît ce genre de chanson, je ne crois pas.
Ah, ça n'a pas passé le temps.
Il va être temps. Maintenant il va la connaître.
Vous verriez monter sur une scène d'opérette un jour, puisque on a besoin d'actrices, chanteuses, il n'y en a pas tant que ça.
Bah, j'adorerais ça.
Oui, c'est vrai.
Ah oui. Ah oui, oui, vraiment.
Alors, vous avez été, Sandrine Saroche, quand vous étiez enfant, faut dire, fascinée d'abord, je crois, notamment par les comédies musicales que vous découvriez chez vos grands-parents à la télévision.
Oui, oui, hein. À la télé, en fait, ça passait à la télé au départ. Hein. Tout ce qu'on connaît, on le connaît par la télé. Mais c'est vrai que, oui, ça commence avec les films de Demy, en fait, voilà, avec Podane. Lorsqu'on est enfant et qu'on découvre Podane, d'ailleurs, ça, la magie opère toujours aujourd'hui. Les petites filles regardent encore, connaissent
Podane. Oui, ça s'est passé, contrairement à l'opérette.
Oui, c'est vrai. Podane, et puis les Demoiselles de Rochefort, etc. Et puis un petit peu plus tard, on découvre Cabaret, et puis en fait, et puis il y a tous les films. Ah, mais moi, enfin, quand on aime chanter, on ne peut pas ne pas aimer ça.
Et puis, et autre expérience marquante, ça a été Mireille à l'Opéra de Toulon, justement,
oui,
je crois.
Hein. Oui, c'est vrai. C'était une cliente de ma mère qui était abonnée à l'Opéra et qui était vraiment fan, qui s'occupait même de trouver des costumes, etc. Et qui m'avait amené voir Mireille. Et voilà, pareil, ça c'était le Sud, hein, vraiment.
Ouais,
et cette musique tellement gaie, tellement, qui vous emporte comme ça, oui, ça a été une révélation, Mireille, oui.
C'est ça que vous avez décidé à travailler le chant un petit peu plus sérieusement au conservatoire?
Je sais pas si c'est ça. Il y a toujours une multitude de facteurs. C'est pas simplement une chose, mais j'avais rencontré notamment la femme du directeur du conservatoire qui était une chanteuse, qui chantait dans les chœurs. Et je lui avais dit, j'aimerais bien chanter. Elle m'avait dit, mais il faut s'inscrire. Et en plus, comme tu as fait déjà du solfège, tu n'auras plus à faire de solfège. Alors ça, c'était la phrase magique. C'était un sésame. On me disait que j'étais pas obligée de faire du solfège.
Des classes de solfège.
Ah oui, parce que ça, c'est quand même rébarbatif, hein, le solfège, oui.
Voilà. Vous avez eu une professeure qui s'appelle Isabelle Andréani.
Oui, qui était ma prof de chant. Après, donc j'ai fait du chant lyrique, effectivement, au Conservatoire de Toulon. Isabelle Andréani était une petite bonne femme, toute petite bonne femme corse, et vraiment avec une poigne incroyable. Et elle avait chanté Carmen. Alors, donc, c'était... elle était très marrante, parce qu'elle était... c'était pas facile, hein, vraiment.
Avec le côté diététique du chant aussi, ou anti-diététique.
Elle n'arrêtait pas de me dire, mais mange des pâtes! Mange des pâtes! Il faut que tu grossisses! C'est terrible.
Voilà. En tout cas, justement, tiens, j'ai envie qu'on écoute un petit extrait de Mireille pour retrouver cette fraîcheur provençale dans la musique. Puis après, tout de suite, autre chose qui, je crois, vous a marqué musicalement dans ces années de découverte et de formation. Thank you. Et voilà, on a changé de région, hein, Sandrine Saroche, après Gounod et les Magnanarelle.
Ne zappez pas, vous êtes bien en France en 2021.
Voilà. Vers ça, clarinette de Mouki, du yodel d'Europe centrale entre Suisse et Autriche. Vous avez eu l'occasion de découvrir ça? Ah, ça oui. Vous avait fasciné.
J'avais 10 ans et c'est un voyage en Autriche et je me suis retrouvée effectivement à Innsbruck dans une taverne et j'ai entendu ça pour la première fois et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, ces gens qui chantent comme des oiseaux? Et c'est très difficile, en fait. Oui. Il faut savoir que c'est très difficile parce qu'on passe de la voix de tête à la voix de poitrine comme ça. Donc ça ne se fait pas. C'est beaucoup d'heures d'entraînement. J'essaye désespérément.
Vous n'avez pas encore fait ni sur scène, ni à Paris
Première. Je fais genre, mais ce n'est pas pareil. C'est vraiment une technique que je n'arrive pas à voir. Et vraiment, ça me frustre beaucoup. Même, j'adorerais créer un festival de yodel parce que je trouverais ça tellement...
Et c'est universel, hein. C'est une technique qu'on retrouve dans la country aux États-Unis, chez les pygmées en Afrique, etc.
C'est une technique universelle, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et moi, je trouve ça merveilleux.
Voilà. J'assume. Oh, non, mais je suis heureux parce que c'est l'occasion ce matin, voilà, de partager un peu vos goûts musicaux. Alors, on l'a compris, votre enfance a été bercée de théâtre, de musique, de cours. Et puis finalement, c'est pas la voie que vous avez suivie, hein. Vous auriez pu vous lancer, convaincre vos parents. C'était peut-être pas facile de devenir artiste.
J'aurais pu, effectivement, je me suis pas beaucoup battue parce que c'était un peu compliqué. Il fallait aussi que je travaille le plus vite possible à ce moment-là, quand j'ai commencé mes études. Et puis, moi, j'étais dans une famille où j'étais la première à avoir le bac. Ça représentait aussi quelque chose pour moi de faire des études. J'avais eu le bac et j'avais la possibilité. En plus, j'avais été acceptée en Hippocagne. Et alors, je me disais quand même, c'est quand même une chance de pouvoir faire ça.
Et j'ai fait des études de droit, finalement.
J'ai fait des études de droit. Et bon, finalement, je regrette pas. C'est vrai que j'ai commencé tardivement une carrière artistique, mais c'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre sens. Si j'avais commencé une carrière artistique et que j'avais voulu après faire des études de droit, c'était beaucoup plus compliqué en France.
Mais alors le droit à ce moment-là, vous pensiez que ce serait votre vie, mais en même temps vous avez continué tout le temps à vous produire.
Tout le temps.
C'était un besoin chez vous, hein, notamment au sein de l'Union des jeunes avocats, par exemple. Vous êtes donné en spectacle autant que possible.
Hein. Tout à fait. Dès qu'il y avait quelque chose, dès qu'il y avait un tréteau, dès qu'il y avait une scène, hop, je monte dessus. Hein. C'est un attrait irrésistible. Ouais.
Voilà, notamment avec des chansons justement un petit peu d'autrefois, hein, sous les palétuviers.
Oui, c'est ça, c'était toujours le principe de chansons détournées, c'est ce qu'on faisait. Ouais.
C'était ce que vous faisiez déjà, la même chose, on peut dire, que sur Paris Première.
C'est vrai.
Ça vous est venu comme ça ou c'était le principe de ce genre de...
Non, moi j'ai toujours aimé finalement les chansons. Enfin, je pense que je suis quelqu'un, une femme de mon époque, j'aime aussi des choses plus contemporaines, mais j'ai toujours aimé aussi, j'aime ce qui est beau finalement, j'aime, et que ce soit vieux ou neuf, finalement ce qui est beau est beau. Voilà.
Vous racontez ailleurs que, alors justement, il y avait un petit décalage social quand même entre vous et les autres filles dans ce monde du droit, etc. Ah oui. Vous étiez la seule à vous appeler Sandrine.
Ah non, c'était une soirée particulière. Je me suis retrouvée dans une soirée de chasse, figurez-vous, dans
une
sorte de château. Et effectivement, à un moment donné, donc on me présente. C'était un ami qui m'avait emmené ça. Je pense peut-être pour que je voie ce que c'était, parce que c'était tellement éloigné de ce que je connaissais, de ce que j'étais, de mon milieu d'origine, parce que la chasse dans le sud, c'est pas du tout la chasse, c'est pas de la chasse à court, et je me suis retrouvée dans cette soirée de chasse où effectivement on me présente et là donc toutes les filles se présentent et c'était Diane, elle s'appelait toute Diane et à un moment donné je me suis dit mais mince, elle s'appelle toute Diane, comment je vais leur dire que je m'appelle Sandrine? Et c'est la première fois que je prends conscience que j'ai un prénom quand même qui est plus populaire, quoi, disons. Voilà, c'est ça, je n'avais pas eu conscience avant cet instant.
Vous avez quand même été heureuse dans le milieu du droit et dans la profession d'avocate, ou vous êtes partie parce que vous en pouviez plus?
J'ai beaucoup d'amis qui sont avocats. Uh-huh. J'aime beaucoup cette profession. Mon mari est avocat. C'est vraiment parce que j'avais envie de faire.
Tout d'un coup, ça a repris le dessus.
Ça faisait longtemps que ça couvait quand même. C'est ce que je vous disais. En fait, c'est jamais un seul événement qui déclenche, mais peu à peu, on se rend compte qu'il faut faire ce pourquoi on est fait. C'est, voilà. Je crois que c'est ce qui compte dans la vie quand même. C'est pas forcément ce qui nous plaît, mais ce pourquoi on est fait. Et moi, je pense que je suis faite pour ce que je fais aujourd'hui.
Voilà. Ouais. C'est comme ça que vous êtes allée au cours Florent, finalement, après avoir fait votre droit.
Oui, voilà, c'est ça que je suis allée voir. Parce que j'avais fait plein de bouts de cours de théâtre, d'ateliers, de stages, etc. Donc, je suis allée au cours Florent. Je suis pas restée longtemps. D'ailleurs, je suis restée qu'un mois. Parce que j'avais l'impression d'être leur mère. Avec seulement 10 ans de différence, mais j'avais l'impression d'être leur maman. Mais il y a eu une rencontre importante, puisque j'ai rencontré une amie qui s'appelle Cathy Jacob, qui présentait à l'époque une émission de télé qui était le successeur du Top 50, qui s'appelait le ITF6, et qui avait du mal à écrire ses textes. Et je lui ai dit, écoute, moi, je ne sais pas grand-chose, je ne suis pas sûre de grand-chose, j'ai pas beaucoup de certitudes, mais je sais que ça, je sais le faire. Je saurais écrire ça. Et effectivement, j'ai commencé
et comme ça
à écrire
des textes. Vous êtes entrée dans le milieu du spectacle.
De la télé, en tout cas.
À travers la télévision. Alors, j'ai trouvé pour vous, c'était curieux parce que je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer de trouver une chanson sur les avocats ou une opérette sur les avocats. Il n'y a pas grand-chose, mais j'ai trouvé quand même dans un opéra comique un peu oublié qui s'appelle Maître Patelin de Bazin. Compositeur complètement oublié, je vous rassure si vous ne le connaissez pas.
Non.
Mais il y a cet air, justement, je suis l'avocat d'Ithaque et il parle un peu de son métier.
Je suis un avocat d'Ithaque, petit-fils du grand Cicéron. Je vais plaider pour Télémaque contre la nef Calypso.
Calypso. Ah, la folie, je veux la nipper, oui, je veux la nipper. Ah, quelle folie,
bientôt je parie, tu vas les cramper, oui, tu vas les cramper. J'adopte une madame bizarre et je veux plaider en couplet.
En couplet.
En couplet. Allons, prenez cette guitare, accompagnez-moi sans délai.
Au diable, guitare et couplet, je veux de l'argent sans délai.
Obéissez ou bien je vais à l'instant vous faire un procès.
Je vais répondre à mon honorable confrère par les objections les plus graves et les plus convaincantes.
L'autre jour, une pompette chantait dans le petit bois. Pour attraper la pauvrette, Lisons vint en tapinois. Lon, lon, la, mademoiselle Lisette, n'allez pas se l'aide au doigt. Lon, lon, la, mademoiselle Lisette, n'allez pas se l'aide au doigt. En chœur, le refrain se répète, allons chanter à pleine voix. Non, non, la, non, de pipette, n'allez pas se l'aide au roi.
Un seigneur en cachette guettait ce gentil minois. Et ce n'est pas la fauvette qui fut prise, je le crois. Lon, lon, la, mademoiselle Lisette, n'allez pas se l'être au bois. Lon, lon, la, mademoiselle Lisette, n'allez pas se l'être au bois. En dansant, cette air se répète dans son chanton à pleine voix. Lon, lon, la, lon, de pipette, n'allez pas se l'être au bois.
J'ai les comptes rompus, j'ai les jambes moulues, mais je veux mon argent.
Chut!
Silence!
Que le diable l'emporte, je suis un maître, oui vraiment. On projette ma porte.
Que dit-il à présent?
On projette ma porte, morbleu, je les entends. Vite, ma halebarde!
Sa halebarde!
Garde-voleur. Maître Patelin de François Bazin sous la direction de Jean Brébion. Voilà, c'était l'occasion de découvrir un petit trésor méconnu de l'opéra comique français. Vous avez beaucoup plaidé
Non, j'étais plutôt dans le côté administratif de la chose. C'est ce qui fait que d'ailleurs je suis partie avec d'autant plus de facilité que c'était pas. C'était un peu
si vous aviez plaidé, vous auriez pu chanter au moins, peut-être de ça, temps en temps, en détournant des chansons.
Quand on entend ça, on se dit pourquoi. Mais la vie serait tellement plus facile si on chantait. Ouais, à la place de plaider, on pourrait chanter, ce serait formidable.
En tout cas, Sandrine Saroche, donc vous nous l'avez dit, vous êtes entrée dans le monde de la télévision. Et puis, finalement, après quelques années, je crois en 2006, vous avez monté votre premier spectacle. Oui. Hein. C'était un spectacle autour de, on en parlait beaucoup évidemment à l'époque, de Ségolène Royal.
Oui, c'était mon premier spectacle, mon premier seul en scène. Et ça s'appelait « Je suis Ségolène », avec justement avec l'ambiguïté du « je suis ». Donc c'était à la fois le verbe « être » et le verbe « suivre », on ne savait pas vraiment. C'était juste avant que Ségolène ait l'investiture, puisqu'il y avait eu un magazine qui titrait « Si c'était elle » avec la photo de Ségolène Royal. Et je me suis dit « Tiens, c'est vrai, qu'est-ce que ça changerait pour nous les Français ? Qu'est-ce que ça changerait pour nous les femmes si c'était une femme qui était présidente de la République ?» Et voilà, je suis partie sur cette idée un petit peu fantasmagorique. Et donc c'est devenu un truc un peu... C'était la coiffeuse de l'Assemblée nationale parce que voilà...
Parce que vous aimez bien imiter des personnages aussi,
oui,
hein,
oui,
dire.
J'aime toujours... Oui, mais alors j'avais un ami très très cher d'ailleurs qui n'est plus là aujourd'hui et qui me disait tout le temps « Tu n'imites pas, tu incarnes. »
Ah oui.
Et oui, voilà, c'est ça. Parce que moi, j'ai jamais travaillé les imitations en réalité. Je sais pas du tout quelque
vous
chose.
Vous adorez, je crois, Sylvie Joly quand même.
Oui, j'aimais beaucoup Sylvie Joly. Et d'ailleurs, parfois je me dis, mais comment est-ce que je connaissais aussi bien Sylvie Joly ? Et je pense que je louais des cassettes à l'époque à la médiathèque ou à la bibliothèque. En fait, c'est comme ça parce que c'était pas quelque chose qu'on écoutait à la maison forcément. Et je me suis posé la question récemment.
Et dans votre spectacle, donc sur Ségolène Royal, voilà, il y avait donc la coiffeuse de l'Assemblée, naturellement.
Oui, c'était la coiffeuse de l'Assemblée nationale qui attendait sa cliente et puis elle entendait une voix, une sorte de voix divine. Alors c'était entre Matrix et Jeanne d'Arc. Il y avait beaucoup.
Elle est venue voir le spectacle?
Non, elle n'était pas venue à l'époque, mais alors il y a 2 ans, lorsque je l'ai rencontrée, il y a 3 ans sur le plateau de Zemmour et Nolo, et je lui ai raconté que j'avais fait ce spectacle. Et elle m'a dit, ah, mais c'est dommage, je n'ai pas su, etc. Et le jour même, elle m'a invitée à son émission chez Michel Drucker, en fait.
Ah voilà, ouais. Donc vous êtes rapprochée.
Elle s'est, elle s'est rattrapée de ne pas être venue. Elle était contrariée de ne pas être venue, effectivement. Donc, et d'ailleurs, c'est ça. Très souvent, les gens me disaient « Ah, bah, si elle avait votre humour, elle serait élue. » Bon, voilà.
Et nos amis les People, c'était votre deuxième spectacle, deux ans plus tard, en 2009.
Mais c'est-à-dire que Ségolène n'ayant pas été élue et Nicolas Sarkozy ayant étant arrivé au pouvoir, on est entré dans une ère très People, très et donc c'était un cours pour devenir People en 10 leçons.
Voilà, il y a un regard sur l'actualité, mais plein de fantaisie.
Voilà, c'est ça.
Et avec déjà des chansons.
Il y avait toujours des petits passages chantés, oui, tout à fait. Ouais. Il y en avait moins qu'il y en a aujourd'hui. Mais il y a toujours eu, des passages chantés. J'osais moins le faire, curieusement. Et c'est vrai que chaque fois, on me disait, il faut mettre plus de chansons. J'ai toujours remarqué qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque je commence à chanter. Alors donc, tout ça m'a donné confiance au fur et à mesure. Et donc, j'ai ajouté de plus en plus de chansons dans mes spectacles.
Voilà, jusqu'à devenir, on peut dire, l'experte en détournement de tubes. Pour parler de l'actualité. Tiens, j'ai encore choisi ce petit extrait que vous avez enregistré toujours dans l'émission Zemmour et Nolo au plein moment du grand conflit social sur la réforme des retraites. Et vous en avez fait cette chanson avec le concours d'Edith Piaf sur la retraite à points.
Non, rien de rien. Non, pas la retraite à points. Si c'est bien. Si c'est mal, j'en sais rien, on n'y comprend que dalle. Non, rien de rien. Non, pas la retraite à point. J'ai payé, cotisé, financé, Edouard, j'en ai assez.
Bravo.
Oh là là, vous savez, c'est pas, hein, mais...
mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand tu brilles dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. À moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foie, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
C'était bien sûr Patricia Cass. J'adore cette chanson. Vous aussi, Sandrine Tarin?
Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qui a été composée effectivement par François Bernheim.
François Bernheim. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que il faut dire que vous avez un complice musical, ouais. Déjà depuis quelques années, qui est ce grand compositeur de la chanson française que j'espère bien recevoir un jour, qui a écrit entre autres beaucoup des chansons de Patricia Cass, François Bernheim. Donc.
Oui, tout à fait. Et puis lorsqu'on a détourné cette chanson, Mon mec à moi est devenu Mon Benalla. Et c'est une chanson que je reprends très souvent d'ailleurs à la fin de mes spectacles, avec toujours beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, parce que c'est un moment de rire. Mon Benalla, c'est quelque chose de mythique.
Ça s'est noué comment, cette sympathie avec François Bernheim et cette envie de faire des choses ensemble?
Lorsque j'ai créé mon dernier spectacle, j'avais deux co-auteurs et dont un travaillait avec François. Et donc c'est lui qui m'a présenté François, qui a donc écrit les compositions originales. Et c'est vrai que cette complicité professionnelle s'est transformée en amitié. Et puis là maintenant on est quasiment tout le temps, on travaille tout le temps ensemble, lundi, mardi, et puis même maintenant le mercredi. Avec la Web TV, il est souvent, oui, parce que j'ai créé une Web TV.
Oui, on va en parler d'ailleurs. Oui.
Et donc, il est très souvent là, François. Et il a 50 ans de showbiz derrière lui, François. Donc, il me raconte, il a vécu l'âge d'or vraiment de la variété française, de ce showbiz qui me faisait tant rêver lorsque j'étais enfant. Et donc, c'est toutes ces anecdotes qu'il a tout le temps, et il sait exactement qui a arrangé un morceau, qui a composé, c'est une encyclopédie
vivante. Il n'est pas susceptible, quand vous détournez ses chansons, pour en faire des
trucs comiques. Il adore ça. D'ailleurs, il l'avait envoyé à Patricia Cass. Je suis pas sûre qu'elle l'ait aimé autant que lui, mais.
Mon Benalla.
Ouais, tout à fait.
Il faut dire, vous êtes servie, Sandrine Saroche, par l'actualité. Bon, il y a eu la pandémie, puis avant, il y a eu quand même toutes les aventures de la Macronie depuis quelques années. Et d'ailleurs, c'est pas toujours des aventures faciles, parce que ça n'a l'air de rien au début, puis ça tourne mal. Il y a une chanson très célèbre qui s'appelle Tout va très bien, sur le sujet, que vous avez justement mis à la sauce Brigitte et Emmanuel. Ça vous est venu comment, ça?
Ça, pareil, on cherche, et puis à un moment donné, on se dit quand même tout va de mal en pis, et on ne peut que penser à Tout va très bien, Madame la Marquise. Et puis c'est vrai que lorsqu'on avait Michel Onfray ce jour-là qui était invité et qui ne peut plus se retenir derrière, et ça c'est un bonheur aussi.
Voilà, faut dire qu'il y a toujours des images très drôles en même temps que passent les chansons. Ouais. On verra aussi tout à l'heure pour Olivier Véran. Mais écoutons Tout va très bien, revu donc par Sandrine Saroche. C'était, il faut le dire, juste avant justement la pandémie, mais les choses étaient déjà bien compliquées dans beaucoup d'autres domaines, puisque c'est l'émission du 22 janvier 2020.
Allô Emmanuel ! Quelle nouvelle ! Absente depuis quelques jours de mon touquet, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ? Tout va très bien,
Brigitte, mon exquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que je vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise d'un ex de la France insoumise. Mais à part ça, la confiance est de mise, tout va très bien, tout va très bien. Allô bébé, quelle nouvelle! Vous que j'ai connu si futé, expliquez-moi, cher Emmanuel, pourquoi vous fûtes exfiltré? Cela n'est rien, Brigitte, mon exquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que je vous dise, on déplore un tout petit rien, une allumette en deux secondes a mis le feu à la rotonde. Rebâtissons, c'est bon pour l'entreprise, tout va très bien, tout va très bien. Allô Poussin, quelle nouvelle, mon restaurant a donc brûlé. Expliquez-moi, amant fidèle, comment cela s'est-il passé? Cela n'est rien, Brigitte, mon exquise. Cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que je vous dise, on déplore un tout petit rien. Si la rotonde brûla, madame, c'est que Paris était en flamme. Mais à part ça, il n'y a pas de crise. Tout va très bien, tout va très bien. Allô, château, quelle nouvelle! Paris a donc été détruit. Expliquez-moi, expliquez-moi, car je chancelle. Comment cela s'est-il produit? Eh bien voilà, Bribri, ma friandise, apprenant qu'elle était virée, à peine fut-elle rentrée de sa banquise, que Ségolène s'est immolée. Il suffit d'augmenter l'essence pour que les emmerdes commencent. Ceux qui occupent les ronds-points veulent point de la retraite à point. Les gars de Christophe Kresterner sont au bord de la crise de nerfs. Et dans les manifestations, le peuple crie, casse-toi Macron, si t'es comme ça, préparons nos valises. Partons très loin, partons très loin.
Un des fleurons du répertoire de Sandrine Saroche.
Ah, et puis il y avait encore le public à l'époque. Et
ah
ça.
Mais c'était avant les masques et,
oui,
et tout ça.
C'était avant la pandémie, il y avait encore du public sur le plateau. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même toujours. Ben oui, et ça, sûr. Ça change tout.
Ben oui. Ben oui. Et alors aussi, ce qui me frappe en écoutant ça ou d'autres de vos détournements, c'est que ce qui est bien avec l'humour, c'est que on peut pas vous situer d'une certaine façon. Vous pouvez vous moquer de tout le monde, il y a pas de...
Bah oui, parce que je suis comme ça. Moi, je me moque de tout le monde, en fait. Depuis tout le temps, depuis l'enfance, c'est un caractère moqueur. Je crois que c'est, on peut me caractériser aussi comme ça, pas seulement. Et je me moque de tout, en fait, tout ce qui me paraît absurde, grotesque, ridicule. Enfin, ouais, je vois toujours le petit élément. Et que ce soit à droite, à gauche, en tout cas, on tape sur tout le monde.
C'est dans l'émission Zemmour et Nolo, on peut pas savoir. Si vous êtes plutôt Zemmour ou plutôt Nolo.
On peut pas savoir moi-même. Non, c'est vrai. J'ai pas d'engagement politique vraiment très fort. Moi. Je relève les incohérences. Voilà,
vous vous entendez bien avec l'un et l'autre et...
Ah oui, je m'entends bien d'ailleurs avec tout le monde, avec toute l'équipe. J'ai pas l'impression d'aller travailler, mais j'y vais tous les mercredis avec beaucoup de plaisir.
Voilà, en tout cas, c'est une très bonne émission de débat sur Paris Première, pour ceux qui ne connaissent pas, avec beaucoup d'invités politiques, des écrivains, etc. Vous y êtes arrivé comment dans cette aventure?
Alors, je peux le citer, il s'appelle Fabrice Pierrot. En fait, il était venu voir mon spectacle et il s'occupait à l'époque, en fait, il travaillait dans la boîte de production, Troisième Œil, et il avait vu mon spectacle. Et puis, par ailleurs, il y avait aussi les gens d'M6 et Paris Première qui avaient vu mon spectacle. Donc, lorsque Tanguy Pastureau, qui était mon prédécesseur, est parti, a quitté l'émission, parce qu'il allait chez Ardisson, Puis il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Et donc mon nom, voilà.
Avec au départ, on a compris la consigne ne pas trop chanter. Et maintenant, chante autant que tu veux.
Ne chante pas, surtout chante. Voilà. C'est ça. Comme quoi, voilà, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Il faut jamais oublier ça, jamais.
Et puisque
jamais,
c'est de la télévision, alors les images sont quelquefois ajoutent quelque chose. On le disait tout à l'heure. Et alors j'ai adoré cette séquence où vous évoquez, vous savez, chers auditeurs, je pense que tout le monde l'a vu, cet épisode où notre ministre de la Santé a retiré sa chemise et s'est montré dans sa presque nudité pour se faire vacciner à l'AstraZeneca. Voilà, et c'est à nouveau une nouvelle petite fantaisie donc de Sandrine Saroche, c'était en février dernier.
Quand verront des graffas sont comme ça en jeu pour sa piqûre d'AstraZeneca, toutes les caméras du voisinage étaient là 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 là, étaient là 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 là, soucieux de soigner son image. Son téton aussitôt il cacha et laissant l'infirmière tout en rage, s'en alla là 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 là, s'en alla là 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 là. L'homme d'ordinaire aussi modeste de retour à Paris s'aperçut que les meufs se pendaient à sa veste dans la rue. Et là, sans dépit de son courage, sa cote de popularité, loin de péter haut dans les sondages, s'effritait. Sur le perron de son ministère, il croisa Brigitte Macron, qui lui dit pourquoi faire mystère du téton. On a compris ton stratagème, ne te fais pas prier mon garçon, montre-nous en plus à la deuxième injection. En verrant des graffas son corsage pour sa piqûre d'AstraZeneca, toutes les caméras du voisinage étaient là 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 là, étaient là 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 là, désireux d'embellir son image. Son gros muscle aussitôt il bonda et laissant l'infirmière tout en âge, s'en alla la 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 la, s'en alla la.
Et voilà un nouveau fleuron du répertoire de Sandrine Saroche. Toutes les semaines, j'attends maintenant, donc les auditeurs l'auront compris, il ne faut pas rater ces morceaux de chansons si drôles. Et d'ailleurs, tellement dans la tradition de l'opérette que je défends ici depuis pas mal d'années, puisque c'était ça aussi, c'était la principe, c'était le détournement du grand opéra pour parler de l'actualité, c'était le détournement de la mythologie pour parler du Second Empire, etc.
Et
voilà. Ça. Donc vous reprenez finalement une formule universelle. On peut
oui,
dire,
c'est vrai. Je crois que c'est ça. Ouais, ouais.
Voilà. Vous avez créé votre chaîne de télévision. Alors ça veut dire quoi? Moi, j'y connais rien.
Oui, parce que ça s'appelle Web TV. Alors le titre met un petit peu la confusion. Parce que c'est pas vraiment une chaîne de télé. C'est une plateforme où il y a du contenu en réalité. Voilà. Mais je rapproche ça du début des radios libres. En fait, oui. On n'a pas de contrainte d'audimat. Je fais ce que je veux. Je parle de ce que je veux. Je suis pas tenue par une actualité. Voilà, par d'audimat. On va pas me dire, ah non, on ne parle pas d'un tel ou d'un tel parce que c'est trop vieux, parce que c'est trop ceci, parce que c'est trop cela.
Vous en enregistrez une par jour, quasiment, hein.
J'en enregistre pas forcément une par jour, mais on en diffuse. Il y a un contenu qui est diffusé chaque jour, effectivement. Donc, il faut trouver des nouvelles choses. Alors, c'est vrai que lorsque je l'ai créé, je pensais que j'allais reprendre plus vite, plus rapidement la scène. Parce que l'idée, c'est aussi de montrer ce que sont les coulisses de la création.
Bah oui. Et de la télévision, d'ailleurs, aussi.
De la scène. Donc je les emmène en fait dans ma loge lorsque je suis en province. C'est aussi l'idée de faire des reportages et en fait c'est un contenu qui va évoluer et que je vais créer, que je vais inventer un petit peu comme j'ai inventé ce métier. Moi j'ai fait aussi beaucoup de spectacles privés sur mesure, sur des sujets qui sont incroyables. J'ai fait une heure de spectacle sur la constipation, j'ai fait une heure de spectacle pour les gynécologues et donc j'utilise tout ça. J'ai une sorte de socle et de contenu. Et par exemple, il y a 15 jours ou 3 semaines, on est allé voir Marie-Paul Bell et je lui ai chanté sa Parisienne détournée. C'est elle qui m'accompagne au piano.
Cette chère Marie-Paul, ça devait être bien.
Donc, elle est en train de m'accompagner au piano et elle se marre en même temps qu'elle m'accompagne. Et c'est un moment, c'est inespéré.
Et plus récemment, dans une chronique, vous expliquez que vous avez compris, au moment des élections de délégué de classe, que vous n'étiez pas faite pour faire de la politique.
Hein. Ça, c'est sûr. J'ai jamais été élue délégué de classe. D'ailleurs, je me suis présentée qu'une fois. Peut-être que c'est ça, j'aurais aimé qu'on me plébiscite, qu'on me dise, mais voilà. C'est toi qui dois être. Puis après, j'ai compris que finalement délégué de classe c'était chiant, il fallait porter toujours le cahier de texte et tout ça. Non, c'était pas pour moi.
C'était voilà. Pas pour vous. En tout cas, Sandrine Saroche, merci d'être venue. Vous avez une idée de la reprise des spectacles sur scène, en tout cas a priori en octobre prochain à Paris au Théâtre des Nouveautés. Hein.
Oui, en principe, c'est ça. Ce sera au mois d'octobre et peut-être quelques dates comme ça de tournée encore. Il m'en reste une, je crois, en juillet. Mais bon, non, octobre au Théâtre des Nouveautés. Et j'espère que cette fois, c'est la bonne.
Avec de la musique.
Avec de la musique, bien sûr.
Avec de la musique, bien merci. Sûr.
Merci beaucoup.
Beaucoup, Sandrine Saroche. On va se quitter, tiens, je l'évoquais à l'instant, justement, avec Offenbach. En plus, il y a la voix du grand Gabriel Baquet qui nous a quittés il y a un an exactement. Donc, je trouvais ça bien de se dire au revoir avec le final de la Péricole, puisque vous montrez peut-être en plus un de ces jours sur une scène d'opérette, qui sait.
J'espère bien.
Oui. Merci, Sandrine Saroche.
Merci beaucoup, Benoît.
We'll be right back.
le final du deuxième acte de La Péricole d'Offenbach par Gabriel Baquier, José Carreras, Teresa Berganza et toute la troupe du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson. Et puis bien sûr, mon invitée Sandrine Saroche, vous pouvez la retrouver donc à la télévision sur Paris Première, bientôt sur scène en octobre au Théâtre des Nouveautés et aussi sur sa chaîne sandrinesaroche.tv. Oh, j'adore cette polka mazurka extraite du ballet de l'opéra Robert le Diable de Meyerbeer. Ça s'appelle le ballet des nonnes. Et la version qu'on vient d'entendre, c'est par l'Orchestre Symphonique de Barcelone sous la direction de Michael Nesterowitz.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis je vous ai promis de revenir un peu à Léo Fall, ce grand maître de la musique viennoise que j'ai déjà évoqué dans plusieurs émissions avec certaines de ses œuvres comme Le Joyeux Paysan, La Rose d'Istanbul, La Divorcée et d'autres encore. Alors aujourd'hui, je vous avais promis une version en français des archives lyriques de Radio France parce que les opérettes de Léo Fall ont été adaptées en France dès le début du XXe siècle et on a quelques enregistrements en français, notamment donc de La Princesse Dollar, une opérette de 1907. Qui évoque le monde des millionnaires qui fascinait beaucoup en Europe à cette époque. Et il y a d'ailleurs dans l'œuvre un chœur des millionnaires qu'on va entendre tout de suite.
C'est nous les Richard Civanté de la 5e avenue.
Notre fortune incontestée est de nous-mêmes inconnue. À nous seuls nous accaparons tout ce qui se vend, s'échange.
C'est ce qui fait que nous avons des rois aux noms étranges.
C'est nous qui sommes le roi du charbon. C'est nous le roi de l'amidon. C'est nous le roi du savon. C'est nous le roi du fumicoton. Et le roi du cochon.
C'est nous le roi du charbon.
Charbon.
C'est nous le roi du mignon.
Mignon.
C'est nous le roi du savon. C'est nous le roi du fumicoton.
C'est
fait pas de son métier.
Même de ce qu'on chine.
Qu'on chine.
Et nous avons des charcutiers.
Trichine, trichine.
Trichine.
Il faut avoir un cœur d'acier quand on fait du négoce.
Et près de nos grands financiers, tous les autres sont des gosses.
C'est nous qui sommes le roi du charbon. C'est nous le roi de l'amidon. C'est nous le roi du savon. C'est nous le roi du fumicoton. Et le roi du cochon. C'est nous le roi du charbon.
Charbon.
C'est nous le roi de l'amidon.
Midon.
C'est nous le roi du savon. C'est nous le roi du fumicoton.
C'est nous le roi du cochon.
Du charbon, du savon, du cochon.
Les chœurs de l'ORTF avec l'orchestre lyrique sous la direction, bien sûr, d'Adolphe Sibert, qui était à l'époque le grand maître dans cette maison de l'opérette viennoise. On a reconnu la voix de Dominique Tirmont, le milliardaire américain, et sa fille Lina Dachary. Alors dans l'œuvre, il y a toute une série de quiproquos entre ces nouveaux riches américains et puis des aristocrates français qui sont censés leur apprendre le savoir-vivre, sauf qu'il y a des aventuriers et des faux aristocrates qui se mêlent aux vrais, et toute une série de quiproquos qui finiront bien sûr par les retrouvailles des deux amoureux, et qui nous permet de renouer avec un beau rythme de valse viennoise. On entend ici, avec d'abord un petit malentendu entre ces deux amoureux, et puis ensuite leur rapprochement, Henri Le Gay et Lina Dachary.
C'est bien l'ombrelle d'une dame.
Mais oui, mais oui.
Une dame est sans doute ici.
Mais oui, mais oui.
Vous tenant compagnie.
Mais oui.
Jolie, jolie.
Mais oui.
Mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et vous l'aimez.
Un brin par-ci, par-là.
Et vous me demandez, maman. C'est plus que de l'inconduite. Mais quel homme êtes-vous donc? À tout pile et des limites. C'est un scandale. Est-elle brune, est-elle blonde, est-elle femme du monde? Ça, vous allez me répondre, monsieur sur le champ.
C'est impossible. Non, vraiment. La dame a droit à ma discrétion.
Que cette parler veut dire, cette dame de bon ton, qui si bien su vous séduire, est sans doute une coton. De ces gens de personnes qui plaisent tant aux hommes. Non, 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 je ne veux pas. Non, 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 je ne veux pas. Non, 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 non. Cela cessera.
Et comment, s'il vous plaît?
C'est-à-dire que je me disais...
Vous vous disiez?
Je voulais... Du moins, je pensais... Non, j'espérais. J'ai tant de peine. Verbo, Freddy, tout est donc fini. Cet autre à vos baisers, cet autre, vous l'aimez. Plaignez la petite milliardaire, si misérable à son tour, malgré
j'avais menti.
Vous amis.
Mais j'ai rapprivoisé par un amant très fort. Deviens tendre épousé et puis jamais ne mens. Allons, allons, allons.
Thank you.
sachant qu'à me plaire, qu'elle est belle. Son cœur sauvage, enfin dompté, n'est que diligence et que bonté. Et rien assure son retour. Mon idée abandonne. Oui, son
retour. Lina Dachary et Henri Leguet dans les rôles d'Alice et Freddy, les deux héros de cette Princesse de l'art opérette en trois actes de Léo Fall qu'on vient d'entendre dans un enregistrement de l'ERTF qui date de décembre 1966. Et puis tiens, encore un petit trésor que j'ai mis de côté pour vous depuis des semaines. C'est une de ces suites à danser, des œuvres de musique légère commandées aux compositeurs dans les années 50. Et parmi eux, l'excellent Maurice Thirier qui a donc gravé une suite à danser dans laquelle sont insérés quelques morceaux chantés. Et j'ai choisi celui-ci, c'est un tango intitulé El Guardia del Amor sur des paroles de Willy Fratellini. Vous entendrez d'abord l'orchestre et à la fin une voix qui n'est autre que celle d'Éric Amado, excellent chanteur qui est par ailleurs le père de notre chère réalisatrice.
Surveille votre amour.
Tango, extrait de la suite à danser de Maurice Thérier, enregistré en 1953 par l'orchestre E8 avec la jolie voix d'Éric Amado. Et pour se quitter encore un peu de musique légère, si l'on peut dire, c'est l'année 500, vous le savez, mais 500 a écrit beaucoup d'œuvres de demi-caractère, des œuvres pittoresques, comme cette Rhapsodie d'Auvergne qu'on entend rarement. On va l'écouter tout de suite avec Jean-Philippe Collard au piano et le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction d'André Prévin. Jean-Philippe Collard au piano, le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction d'André Prévin dans cette Rhapsodie d'Auvergne de Camille Saint-Saëns qui nous a quittés voici un siècle en 1921 et qui sera d'ailleurs, je crois, à l'honneur tout l'été sur France Musique. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Xavier Atto, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, c'est la fête puisque je reçois Alice Donna. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique où vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.